On va voir un message que Dieu veut nous parler aujourd'hui sur, bon, vous dire franchement, c'était pas un sujet que j'avais dans ma tête, c'est pas quelque chose qui vient de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà été inspiré, puis vous reconnaissez que les paroles là, que vous avez dans votre esprit, c'est pas ce que vous auriez pensé, mais c'est ce qui est arrivé avec ce message-là. Puis Dieu veut nous faire comprendre qu'il a fait pour nous, puis qu'il a mis à disposition pour nous un feu qui veut répandre sur nos vies. Mais je le sais qu'il y a plusieurs aspects dans ce message-là au niveau du feu de Dieu. Il y en a que ça pour eux, le feu de Dieu, ça va être bénéfique, puis il y en a d'autres, ça va être terrible de se faire frapper par ce feu-là. Puis les deux options sont là pour chaque individu sur cette terre. Dieu veut nous communiquer son feu. Puis on doit maintenant, à partir du moment qu'on entend parler de ces choses, réclamer le feu de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction pour ceux qui le reçoivent. J'aimerais qu'on ait passé à travers des passages qu'on va lire, vous allez dire, « Wow, je veux ce feu. » Parce qu'on attend à la fin, puis qu'on dit, « Moi, j'ai pas eu le temps, j'en veux pas. » Il y en a un autre feu qui attend, le feu de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Mais là, présentement, on est dans le temps de la grâce. Dieu nous appelle, il veut nous faire des cadeaux, il veut nous bénir, il veut répandre sur nous son feu. Puis il est important qu'on ait ce feu pour marcher dans cette vie. Dieu nous a révélé dans sa parole, dans Daniel chapitre 7, le verset de 9 à 10, il nous a révélé que dans les lieux célestes, Daniel, qui est un prophète, il a eu une vision des lieux célestes. Il a vu Dieu assis sur son trône. Puis dans la révélation qu'il nous donne, il a fait la remarque qu'il y a un fleuve de feu qui sortait du trône de Dieu. On va aller lire ce passage-là pour ceux qui ont des Bibles. Puis ceux qui n'en ont pas puis qui aimeraient lire, que quelqu'un s'assied à côté de quelqu'un qui ne l'a pas puis qui partage pour y montrer. On n'invente rien. Toutes nos prédications, nos messages sont basés sur des écrits de la Bible. On prêche à rien de ce qui n'est pas écrit, puis on n'enlève rien. On veut tout ce qui est écrit, puis on ne se porte pas de religion avec ça. On reste dans la révélation de ce que Dieu a donné. Regardez bien cette révélation-là qui nous parle de Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10. Il dit, regardez pendant qu'on plaçait des trônes. Là, il nous expliquait qu'il y avait une vision, puis il y avait des trônes dans le ciel. L'ancien des jours s'assit. Ça, c'est Dieu qui s'est assis. Et son vêtement, il était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Fait qu'imaginez un immense trône avec le Créateur qui est assis dessus, puis le trône où ce qui est assis, c'est du feu qui sort du trône. Ça nous dit, son trône était comme des flammes de feu, et les roues, parce qu'il y avait des roues autour de son trône, étaient comme un feu ardent. Un feu ardent, ça, c'est un feu qui brûle activement parce qu'il est alimenté par un gaz, puis là, ça brûle fort. Puis là, il dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. C'est comme si devant le trône, il est assis sur le trône est en feu, il y a des roues en feu, puis un gros fleuve de feu qui sortait de devant lui, puis qui était devant lui, puis que ça coulait pour tous ceux qui... Il était pour en profiter. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Là, ça dit, 1 000 000 le servaient et 10 000 000 se tenaient en sa présence. Et les juges s'assirent et des livres furent ouverts. C'est une révélation, là. C'est une révélation de Dieu, de ce qui se passe dans le ciel présentement, dans le monde invisible, ce qu'on peut pas voir avec nos yeux, à moins que Dieu nous donne une révélation. Daniel l'a eu, cette révélation-là. Puis un message pour annoncer aux humains. Ça fait 3 000 ans que ce personnage-là, peut-être 2 500, là, je ne l'ai pas compté, mais ça fait au moins 2 500 à 3 000 ans que ce personnage-là, Daniel, a eu la révélation pour nous donner un message prophétique pour l'avenir. Que Dieu voulait répandre de son trône un feu qui sort de lui, qui était pour couler, pour être distribué et pour agir sur ceux qui ont soif de quelque chose de plus grand. Puis c'est quand même grandiose parce qu'on voit qu'il y a des millions puis des millions d'anges qui le servaient. Puis 10 000 millions, c'est des milliards d'anges qui se tenaient dans sa présence. Quel spectacle extraordinaire! Ça, c'est l'armée de Dieu qui était devant lui. Par la suite, parce que là, comme si j'en saute des bouts, on va comprendre que Jésus, il est venu sur la terre. On le sait qu'il est venu pour mourir sur la croix. Ça, il est mort sur la croix, puis il est ressuscité. Mais il n'est pas juste mort. Il n'est pas juste venu pour mourir sur la croix. Jésus nous dit qu'il est venu jeter sur la terre. Il est venu pour venir jeter un feu sur la terre. Puis dans ce feu-là, ça serait la bénédiction et le jugement qui seraient répandus sur la terre. Ça nous dit que ce feu qu'il y a eu comme conséquence que ça a mené une séparation parmi les humains. Contrairement à ce qu'on pense, Jésus n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il est venu pour apporter la division. Puis on va voir ce passage-là dans Luc 12, 49, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Jésus, là, on pourrait dire que c'est une coïncidence, il y a un feu dans le ciel qui sort du trône de Dieu, puis Jésus est venu pour jeter un feu sur la terre. Puis là, il dit, qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il dit, il y a un baptême que je dois être baptisé, puis ça lui tardait qu'il soit accompli, mais pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non, je vous dis, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison sera divisé, 3 contre 2, 2 contre 3. Dieu, par l'entremise de Jésus, est venu pour jeter un feu sur la terre. Puis ce feu-là, vont être reçus par quelques-uns et rejetés par quelques d'autres. Puis ça va faire que les gens vont commencer à être séparés les uns des autres. Il y en a qui vont dire, « Moi, je suis avec Jésus. » Puis les autres vont dire, « Moi, je veux rien savoir de Jésus. » Mais quand même, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un feu qui a commencé à être lancé sur la terre. Puis il faut réaliser que ce feu-là est là, parce que c'est important. Pour tous ceux qui aiment Dieu, faut réaliser que ce feu-là, il est là, puis Dieu veut le répandre. La Bible nous dit, dans un autre passage dans le Nouveau Testament, que tout être humain sera touché du feu de Dieu. Tout être humain. Ça nous dit ça dans Marc 9, 47 à 50. Mais c'est surtout le verset 49 qui nous dit, « Tout homme sera salé de feu. » Salé, c'est assaisonné. Tout le monde, qu'on le veuille pas, on va être assaisonné du feu de Dieu. Puis là, dans ce passage-là, si on lirait le passage, ça nous dit qu'il y a des gens qui vont le recevoir, ce feu-là, volontairement, puis ils vont recevoir une bénédiction, puis ceux qui vont le rejeter, ça va être une malédiction pour eux de rejeter ce feu-là. Jean-Baptiste, il est venu juste avant que Jésus commence à prêcher. Puis Jean-Baptiste a commencé à prêcher un message impressionnant parce que Jean-Baptiste, il connaissait pas encore la révélation de Jésus. Il l'apprenait au fur et à mesure, en même temps que tous les autres. Il a su que Jésus était le Messie, qui était l'agneau de Dieu. Mais dans son message, Jean-Baptiste, il prêchait un message qui a rapport au feu de Dieu. Que Dieu voulait répandre, puis que Jésus a dit, je suis venu pour le lancer, ce feu-là. Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, le verset 11, Jean-Baptiste qui parle, il dit, moi, je vous baptise d'eau. Jean-Baptiste, c'est Jean le Baptiste. Il baptisait les gens pour préparer les gens à croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Fait que Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il dit, moi, je suis venu pour vous baptiser d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, Jean-Baptiste est venu pour révéler Jésus à tout le monde, pour préparer le chemin à Jésus pour tout le monde. Fait qu'il dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je suis pas digne de porter ses souliers. Lui, en parlant de celui qui va venir, Jésus-Christ, Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, la Bible nous parle, ça commence à nous donner une révélation. C'est quoi le feu de Dieu? C'est quoi qui sort du trône de Dieu, ce fleuve-là qui sort du trône de Dieu? Puis que Jésus est venu pour le jeter sur la terre. Puis que ce feu-là va amener la controverse dans le monde, la division dans le monde entre le vrai peuple de Dieu, ceux qui l'ont reçu, le feu de Dieu, et les autres qui rejettent le message de Dieu. Ce qu'on doit savoir, comme j'ai dit tantôt, il faut le savoir qu'il y a un feu qui a été jeté sur la terre, puis que nous sommes appelés à le recevoir. Ce feu-là, c'est pas n'importe quoi. C'est le Saint-Esprit que Dieu veut donner à ceux qui croient. Jean-Baptiste a été le premier à l'annoncer. Il dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il dit, je suis pas digne de délier ses souliers. Puis lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est ce feu-là qu'on veut, Seigneur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous équiper de sa présence. On veut le recevoir, on veut vivre des choses avec lui. Parfait. Mais il veut aussi nous revêtir de son feu. Savez-vous qu'il y a un passage dans Hébreux, au chapitre 1, le verset 7, qui nous dit que quand tu es un serviteur de Dieu, tu es une flamme de feu. Ça nous dit ça dans Hébreux 1, 7. Dieu, il a dit de ses anges, celui qui a fait de ses anges, ses vents. Les anges, c'est des vents, des esprits. Pneumon, c'est des souffles, ils appellent ça des anges, mais c'est le mot esprit. Les anges de Dieu, c'est ce qu'on voit pas de nos yeux, mais qui sont là dans le monde invisible. Puis autant qu'on sait qu'il y a une rébellion, puis qu'il y en a de ces anges-là qui se sont rebellés contre Dieu, c'est le diable et ses anges qui se sont rebellés, puis qui travaillent contre Dieu présentement pour détruire l'humanité, pour faire le trouble dans ce monde, puis empêcher le monde d'aller à Jésus. Mais il dit qu'il a fait de ses anges des vents, puis il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ça, ses serviteurs, ça parle de ceux qui ont reçu le feu de Dieu. Quand tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, il te les pardonne, mais il ne te reste pas seul. La Bible nous dit que Jésus nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous, il nous remplit. Puis là, Jean-Baptiste le dit, il vous baptisera. Baptiser, ça veut dire vous inonder du Saint-Esprit et de feu. Puis là, dans ce passage-là, dans Hébreux, ça nous dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Puis si je vous salue aujourd'hui, je pourrais vous dire, salut, flamme de feu. On est des flammes de feu, ça se voit pas à l'œil. Mais des fois, quand le feu est fort dans un chrétien, ça se ressent, ça se perçoit. Il y a quelque chose de pas normal, ce gars-là. Il est pas pareil aux autres. Tu l'écoutes, puis ça fait un effet. Si vous n'avez pas encore vécu de rencontrer des gens sous l'influence du feu de Dieu, continuez à vous tenir avec des chrétiens, vous allez voir, ça va se produire. Au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Les premiers disciples, suite après que Jésus soit mort, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours, puis il leur a expliqué les choses qu'il y avait dans le royaume de Dieu. La 40e journée, il a dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem d'être revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus leur avait dit, « Il faut que vous soyez baptisés d'Esprit Saint et de feu. » C'est ce que Jean-Baptiste a promis. Puis les premiers disciples ont passé 10 jours dans la prière à demander, à réclamer la puissance de Dieu pour que le Saint-Esprit descende puis qu'il puisse en être revêtu. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Ben, on va le lire. Acte 2, chapitre 1 à 4. Acte 2, chapitre 1, verset 4, ça dit, « Le jour de la Pentecôte, parce que c'était une fête à Jérusalem, cette journée-là, les disciples étaient tous réunis, la Bible nous dit qu'il y avait 120 personnes dans la chambre haute, puis tout le monde priait pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. » Pourquoi qu'il attendait cela? Parce que Jésus a dit ça, c'est une promesse qui vient du Père. Puis Jésus était pour répandre le Saint-Esprit sur toute chair, sur tous ceux qui croient, pas juste certains prophètes pour accomplir des tâches spécifiques. Sur ses serviteurs, sur ses servantes, sur les vieillards, sur les enfants, tout le monde pourrait être touché de la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Fait que ça vient du ciel comme un bruit d'une grosse tornade dans l'appartement où ils étaient réunis. Et il remplit toute la maison où il était assis. Là, ça nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu voulait faire un acte surnaturel, visible, auditif. Tous les effets spéciaux étaient là. Il a voulu que le monde le sache, qu'est-ce qui se produit là. Autant quand il y a eu la tour de Babel, Dieu a confondu les langages, puis tout le monde parlait d'autres langues, puis le monde il se comprenait plus, parce que c'est là qu'il a confondu les langages. Ça a fait que les gens se sont retirés, ils ont lâché de construire la tour de Babel, parce que là, ils ont parlé en d'autres langues, puis là, le monde, il y avait des Italiens, des Chinois, tous les langages, puis le monde se comprenait plus. Là, ils sont partis chacun sur le bord. Mais là, le jour de la Pentecôte, il y a eu un miracle extraordinaire. Dieu il a manifesté qu'il donnait son Saint-Esprit à ses disciples. Ils ont tous été revêtus, mais c'était comme une langue de feu qui a tombé sur eux. Puis là, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Puis c'était tellement bruyant, le bruit de ce vent-là, que dehors, dans Jérusalem, il y avait une fête, puis il y a 3000 personnes et plus qui se sont approchées auprès de cette maison. Ils ont entendu, ils ont vu, puis là, ils se demandaient tout qu'est-ce qui se passait, parce que les gens venaient tous de d'autres pays, puis entendaient les chrétiens en train de parler en d'autres langues. Puis là, les gens étaient de voir, ils disaient, on les entend parler des merveilles de Dieu dans nos propres langue. C'est que Dieu venait de faire un miracle exceptionnel pour attirer des personnes à venir écouter le message que Pierre était pour leur donner. Puis il leur a dit, ça c'est la promesse de Joël, que Dieu dans les derniers temps répandrait son Saint-Esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles qui prophétiseront, les vieillards auront des songes, puis des miracles, puis dans le ciel, sur la terre, puis ça s'est produit par la suite. Toutes sortes de miracles que les disciples ont vécu par la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit était sur les apôtres, et le feu de Dieu était sur les apôtres. Jean-Baptiste a dit, « Vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Puis c'est là qu'on voit que les serviteurs de Dieu, c'est des flammes de feu. Amen. Amen. Puis là, le feu du Saint-Esprit a fait de ses serviteurs des témoins. Tu peux pas être un témoin de Dieu si tu l'as pas reçu. Tu peux parler de ce que tu as vécu, de ce que tu penses, de tes idées. Mais pour parler dans le nom de Dieu, il faut que tu sois investi de quelque chose qui vient sur toi. Puis quand tu le reçois, ta vie est changée. Les gens du dehors s'aperçoivent qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Ta vie a changé. Il dit, avant, ce gars-là, il était comme ça, puis aujourd'hui, je le reconnais plus, il est reviré fou. C'est ça que le monde va dire. Puis c'est ce qu'ils ont dit aussi des 12 apôtres. Ils ont-tu l'air d'une gang de gossous? Ouais. Mais dans Actes 1, 8, juste avant qu'ils reçoivent, Jésus leur a dit, « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. » Nous avons besoin du feu de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin de Dieu. C'est là qu'il va commencer à se passer quelque chose dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous regardent aller. Ils vont dire, « Il y a quatre choses. » Dieu veut pas juste qu'on soit des témoins. Le feu de Dieu, il est bien plus que cela. Comme j'ai dit tantôt, il veut changer nos vies. Il veut plus qu'on reste comme qu'on était avant. Avant qu'on vienne à Jésus, On se regarde les 10 commandements, je pense qu'on les a tous enfreints. On a été rebelles à Dieu. Toute la gang, on a enfreint. On est tous des pécheurs. Je veux pas diminuer ça, dire que c'est pas grave, on l'est tous, c'est pas grave. Non, non. C'est très grave parce qu'à cause de nos péchés, on pouvait pas entrer dans la vie éternelle. À cause de nos péchés, on va être jugé éternellement. Il faut absolument passer par le pardon de Dieu. C'est grave le péché. Puis après ça, quand tu reconnais que Jésus est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour pardonner tes péchés, là tu peux te repentir puis dire, Seigneur, je suis pécheur, je veux plus vivre cette vie-là, je veux être changé, je veux cette nouvelle vie que tu as me donnée. C'est là que tu vas le recevoir. Tu vas confesser que tu crois que Jésus est mort pour toi, puis tu vas dire, j'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. Puis c'est là que Dieu pardonne tes péchés. Il lave tous tes péchés. À cause de quoi? À cause qu'il est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour nous purifier. Il a accepté de mourir à notre place. Lui était juste, sans péché, puis nous on était pécheurs, puis là il a accepté de prendre la dette de nos péchés sur lui et de la payer à notre place. Il est mort à notre place. Si on croit qu'il est mort pour nous, puis qu'on reçoit ce cadeau-là qu'il veut nous donner, on le saisit par la foi, bien il nous pardonne de tous nos péchés, puis c'est là qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. On reçoit pas juste le Saint-Esprit, on reçoit aussi le feu de Dieu qui vient sur nous. Qu'est-ce que ça va faire, ce feu-là? Il va nous transformer. Il va nous purifier. Il va nous chauffer. Pareil comme tu prends un feu, puis tu mets un petit chaudron dessus, tu mets n'importe quel élément dedans, que ce soit de l'or, du plomb, n'importe quelle chose, tu le chauffes, ils font à cause de la chaleur, puis tout le méchant, les scories qu'il y a à l'intérieur remontent à la surface, tu peux enlever toutes les scories. Puis là, après ça, ton or ou ton métal qui était dedans, qui est fondu, devient de plus en plus pur. Le Saint-Esprit de Dieu, ça nous dit, dans Zacharie chapitre 13, verset 9, Dieu était pour mettre ses disciples dans le feu. Là, on parle encore du feu. Le travail du feu est pas juste pour être une lumière pour éclairer. Le travail du feu chauffe la vie d'une personne pour le purifier. Et je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. L'épreuve du feu produit par le Saint-Esprit qu'on a reçu change notre vie. Puis là, il dit, ils vont invoquer mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est Dieu qui parle, c'est mon peuple. Puis l'autre va dire, l'Éternel est mon Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ta vie change. Autant qu'avant, tu n'étais pas intéressé de prier Dieu. Tu n'avais pas le temps de prier Dieu. Tu avais plein de choses à rechercher dans ce monde, les plaisirs de ce monde, qui t'amenaient à être séparé d'avec Dieu, parce qu'il y a beaucoup de péchés dans ce monde. Mais quand tu passes par Jésus, puis tu reçois le pardon, puis que le feu de Dieu vient en toi, ta vie commence à chauffer. Dieu chauffe ta vie pour te changer. Tu seras pas capable toi-même de les enlever, ces affaires-là, tout le pas bon qui est dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut aller au Seigneur, recevoir le feu de Dieu, puis là, il nous purifie. C'est lui qui fait chauffer la bouloir, puis que le méchant ressort, puis que lui l'enlève, puis là, on va dire, « Seigneur, tu es mon Dieu! » Puis lui, il va dire, « T'es mon enfant. » Il y a une relation qui s'est développée à partir du moment que tu vas à Jésus. C'est annoncé d'avance dans l'Ancien Testament.
Puis après ça, tu peux appeler Dieu ton Père.
Oui, c'est quelque chose, parce que tu viens pas au monde enfant de Dieu. Non. Tu le deviens parce qu'il décide de t'adopter. Il veut t'adopter. On est toutes des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous ses enfants. Il faut le devenir enfant de Dieu. Puis ça nous dit dans la Bible, à celui qui ont cru en Jésus, à ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, j'ai parlé le beau côté du feu. J'ai parlé du beau côté du feu de Dieu, le feu qui nous revêt de sa puissance, qui fait de nous un témoin et qui change notre vie. C'est le feu qui descend du trône de Dieu. Jésus, comme j'ai dit tantôt, il est venu pour jeter le feu sur la terre, puis à cause qu'il est mort sur la croix, le feu est répandu. Mais ça nous dit aussi que tout homme sera salé de feu. Ça, c'est l'autre passage que je vous ai lu. Puis ça nous dit, tout le monde va être salé, assaisonné du feu de Dieu, sauf qu'il y en a qui le sont volontairement parce qu'ils l'ont reçu. Puis les autres qui veulent rien savoir vont l'être aussi, mais c'est pas le même effet qu'ils vont recevoir. La Bible nous parle aussi du feu de Dieu comme un jugement pour les nations. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 5 à 7, ça nous dit dans ce passage-là qu'il y a des gens qui refusent, qui disent, moi, j'ai pas le temps de m'occuper d'un Dieu ou de servir un Dieu. Je veux pas vivre pour un Dieu. Je veux faire ma vie comme je l'entends. Je veux vivre pour mon plaisir, faire ma volonté et non pas la volonté de Dieu. Ils veulent ignorer que c'est Dieu qui a tout créé, ce qui est là présentement. Ils se disent, moi, je n'admets pas, c'est l'évolution. Ils vont dire que tout est apparu tout seul. La première boule qui était là a apparu tout seul. Ils veulent pas admettre qu'un créateur qui a matérialisé la première boule, même si ça serait le Big Bang, il a fallu que quelqu'un mette la première boule au début qui a explosé. Qui l'a mis là, dans cette matière-là? Il a fallu qu'elle soit matérialisée par un créateur. Mais ils veulent ignorer ces choses, puis ils se disent, on se trouve des théories pour remplacer la il n'y a pas de Dieu qui existe. Ils veulent ignorer que les cieux existèrent par la parole de Dieu, de même que la terre qui était tirée de l'eau puis formée au moyen de l'eau, parce qu'au début de la création, quand Dieu a créé la planète, c'était une boule d'eau en premier. Vous y irez lire dans Genèse au début de la création. Puis il y a, il dit que cette boule-là qui avait été formée à partir de l'eau, elle a péri à un moment donné par l'eau quand il y a eu le déluge. Puis que là, maintenant, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Là, on est en train de voir un autre aspect du feu de Dieu qui sera pas pour bénir, puis aider, puis fortifier. Le feu de Dieu, ça va être aussi le feu de jugement. Dieu a annoncé d'avance qu'il était pour amener un jugement sur cette planète. Il dit, c'est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. La Bible nous parle qu'il y a un jugement qui s'en vient. Dieu y est patient, puis il attend. Pourquoi qu'il attend? Il veut qu'il y en ait un plus grand nombre qui soit sauvé. Il veut pas que les gens périssent. Il veut qu'ils se repentent, qu'ils se tournent vers lui, puis qu'ils demandent le pardon, puis qu'ils reçoivent Jésus, puis que leur vie change. Dieu veut les sauver. Il veut leur donner le feu du Saint-Esprit. Mais il y en a qui disent, moi, j'ai pas le temps. Je veux vivre ma vie comme je l'aime. Puis ils veulent être impies. Impies, ça veut dire ils veulent pas prier un Dieu. Ils veulent pas servir un Dieu. Ils veulent être les même s'ils savent qu'il y a un Dieu ou qu'ils savent pas, ils veulent pas s'en occuper. Ils veulent vivre leur vie que pour eux-mêmes. Mais la Bible elle parle que ces gens-là ont leur péché sur eux, puis qu'un jour, mais ils vont recevoir un jugement pour leur péché. Le feu de jugement atteindra toutes les personnes rebelles à Dieu, à partir des faux prophètes, comme aussi à tous ceux qui veulent pas du pardon de Dieu offert par Jésus-Christ. C'est pas parce que Dieu voulait pas les sauver. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la seule bouée de sauvetage donnée par Dieu pour qu'on puisse être sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on pouvait être sauvé. Il n'y a que le nom de Yeshua, traduit en français par Jésus. Il n'y a que ce nom qui peut nous sauver. Aucune religion ne peut nous sauver. Il y a juste Jésus qui peut nous sauver puis qu'il faut aller à lui pour recevoir le pardon avant de mourir. Ou, si le jugement de Dieu est prévu pour 2 heures après-midi, on est mieux de l'accepter. C'est pas des farces. Ça va arriver. Il y a peut-être encore du temps. On ne sait pas. Il y a peut-être plus gros de temps. Moi, je ne sais même pas, je peux sortir d'ici, me faire frapper par un char qui passe à 50 km/h, puis je peux me faire je peux mourir là. Mon temps est terminé. Mais il fallait qu'avant de mourir, j'aille passer par Jésus pour recevoir le pardon, recevoir son esprit, son feu, à être déclaré un serviteur, que je sois un serviteur de Dieu. Puis une fois que tu l'as reçu, que tu meurs 5 minutes après ou 10 ans après, t'es sauvé. Ça fait partie des élus qui vont vivre la vie sans fin dans sa présence, parce qu'il y a une vie éternelle après la mort. La vie ici, là, est juste une petite vie passagère. On vient au monde, on meurt, ça dure 50, 70, 90. C'est très court. Après, on rentre dans la vie sans fin, qui est la vie éternelle. Fait qu'on est présentement encore à quelque part ici, là, entre les deux, là. Entre notre naissance et notre mort. C'est très rapide. Je suis déjà rendu à 55, je peux vous le dire que c'est rapide. Mais après ça, quand on meurt, la Bible a dit qu'il y a une vie sans fin, c'est la vie éternelle, la vie permanente. Puis il faut être sûr qu'on est sur le bon bord. Il faut avoir accepté Jésus-Christ avant de mourir. Puis tant qu'à l'accepter avant de mourir, on est aussi bien de l'accepter aussitôt qu'on l'entend, aussitôt qu'on l'apprend. Qui est mort pour moi, puis il m'aime, puis il veut que je sois son enfant, il veut que je sois son disciple, puis il veut changer ma vie, il veut faire de moi une nouvelle personne. Oui, tout ce que ça prend, c'est de la repentance, vouloir changer de vie, puis ça prend aussi de la foi pour croire que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Si tu y crois que Jésus veut t'offrir cette nouvelle vie, il veut te pardonner, puis il veut te donner le Saint-Esprit, tu as juste à avoir de la repentance, puis dire, je le regrette le mal que j'ai fait, puis je veux changer de vie. Je veux que tu changes ma vie, Seigneur. Prends-la, je te la donne, puis je veux te suivre. Je veux te servir. Je veux vivre avec toi. Puis à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va t'être donné, puis tu vas pouvoir être transformé. Dans le passage, j'étais en train de lire qu'un feu de jugement qui atteindra toute personne rebelle, que ce soit les faux prophètes, que ce soit les personnes qui sont rebellées contre Dieu, puis dis-moi, j'en veux pas, je veux rien savoir de ça. Ça nous dit dans Matthieu 7, 15 à 19, « Tout arbre qui porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Peu importe si c'est un nom célèbre, je m'appelle, nommez le nom que vous voudrez du personne célèbre, ça sauve pas personne d'être célèbre. Ça sauve pas personne d'être riche. Ça sauve pas personne d'être une bonne personne qui donne sa vie pour les autres puis qui donnerait toute sa richesse pour aider. La seule chose qui peut nous sauver, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ce qu'il a fait v'là 2000 ans comme sacrifice, c'est le seul moyen qui m'a été donné pour que je puisse recevoir son pardon puis que ma vie soit changée puis que je sois sauvé. Amen.
Amen.
Dieu arrachera individuellement de son royaume toute personne non soumise à son autorité, puis les jettera dans le feu de son jugement éternel. Ça parle pas juste aux gens du monde. Même une fois que tu as accepté Jésus, c'est important de marcher d'une manière d'obéir à ses commandements, d'une manière à lui plaire, de continuer à demander pardon si tu as des rechutes. Faut que tu demeures en contact. Si on commet encore d'autres péchés après d'être chrétien, mais il faut demander pardon au Seigneur parce que c'est tellement facile de briser notre communion avec lui qu'on attriste le Saint-Esprit, on peut éteindre l'Esprit, puis on peut être rejeté. Il est important de demeurer dans le contact puis de garder ce contact-là jusqu'à la fin. Parce que notre salut dépend de notre contact qu'on va avoir été chercher, puis qu'on va maintenir, puis être debout quand Jésus apparaîtra ou que la fin de notre vie va arriver. Ça nous dit, dans Matthieu 13, verset 40 à 42, « Comme on arrache de l'ivraie pour qu'on la jette au feu, l'ivraie c'est de la mauvaise herbe, qui pousse dans le champ, Dieu a son champ, puis tout le blé qui est là, c'est ses brebis. » Mais parmi le blé, il pousse aussi de l'ivraie, qui est de la mauvaise herbe. Puis c'est le diable qui a mis ça là. Puis à la fin des temps, ça nous dit que il dit, comme on arrache la mauvaise herbe, on la jette dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arrachera de son royaume tous les scandales, puis ceux qui commettent l'iniquité. puis ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il est important, frères et sœurs, de prendre notre vie au sérieux. Il reste pas grand temps, puis tant qu'à marcher pour le Seigneur, marchons dans l'obéissance. Dans la foi, oui, mais il n'y a pas juste la foi. Marchons dans l'obéissance. Accrochons-nous aux paroles du Seigneur. Méditons, lisons la Bible, méditons, allons dans des réunions qui prêchent la parole de Dieu afin que notre vie soit conforme. On n'est pas parfait, mais il faut quand même marcher à jour avec le Seigneur, confesser ce qui a été confessé, rejeter les péchés. Quand Dieu nous libère de quelque chose, il faut le rejeter. Faut pas garder le péché dans notre vie parce qu'on aime ça. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas le péché, il faut en sortir puis marcher d'une manière sainte. C'est ce que le Saint-Esprit veut produire en nous en chauffant notre vie. Il veut nous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il est important, le feu du jugement est pour ceux qui se rebellent à son autorité. Dieu demande d'être attentif à ses avertissements. Et nous réclamons le feu du Saint-Esprit. Dans Hébreux 12, 25, ça nous dit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle, parce que les versets viennent de la parole de Dieu. Il faut se garder, il faut faire attention de pas dire, « Ben moi, là, ça m'intéresse pas. » De refuser d'entendre ce que Dieu dit. Parce que si ceux-là, en parlant des Juifs, ils n'ont pas échappé, ils refusèrent d'entendre celui qui parlait des oracles de Dieu. Il dit, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Qui est celui qui parle du haut des cieux? C'est Jésus. Il est venu nous dire ce qu'il en était. Puis le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Il y a des religions sur la terre. Oui, il y a des religions, mais c'est pas les religions qui sauvent. C'est le message de l'Évangile qui est le salut par Jésus-Christ, puis la marche dans la communion avec son esprit, la marche dans le chemin resserré qui mène à la vie. Il faut marcher, frères et sœurs, s'engager, puis de réclamer le feu de Dieu. On a besoin pour que Dieu change notre vie. Amen. Dieu, il est amour. Puis on l'entend, puis on aime ça, cette phrase-là. C'est une vérité, Dieu est amour, Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour chacun de nous. Mais il est aussi un feu dévorant. Puis il accepte pas le péché. Il accepte pas la rébellion. Il accepte pas. Puis c'est pour ça que si on travaillera pour un employeur, là, un exemple, c'est la même affaire. Est-ce que notre employeur sera content puis il sera heureux quand il nous voit voler ses affaires? Ou les casser, faire exprès, t'es un chauffeur de peine mécanique, puis tu fais exprès pour casser la pelle. Ou t'as du stock, t'es dans l'entrepôt, puis tu voles le stock. Est-ce que votre employeur sera content? Pas du tout. Mais Dieu, c'est la même chose. Il rit pas, lui, du péché. Ça a coûté cher, le péché. Ça a coûté le sang de son Fils, il était versé. Ça a coûté la mort de son Fils. Puis là, il nous dit, Dieu est amour, il nous aime, il a tout fait. Mais il est aussi un feu qui détruit, un feu dévorant qui va donner le jugement pour ceux qui se rebellent. Puis ça nous dit dans Hébreux, c'est le dernier verset, en Hébreux 12, 28 et 20 à 29, ça nous dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. C'est quoi le royaume inébranlable? C'est une place dans le ciel. Avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Savoir, avoir l'assurance maintenant que je suis sauvé puis je m'en vais dans la vie éternelle, dans le paradis de Dieu. Ça nous dit, vu qu'on reçoit un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu. Faut y montrer qu'on est reconnaissant. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, un feu qui détruit. Voyez-vous le feu de Dieu, frères et sœurs, il y en a deux. Il y a deux impacts pour le feu de Dieu. Il y a le feu de Dieu pour la bénédiction que Jésus venu répandre, le Saint-Esprit, puis ta vie, tu fais de toi un témoin, puis ta vie va changer, tu vas plaire à Dieu, ou le feu de Dieu pour le jugement. Il faut aspirer au feu qui change notre vie et qui nous bénit. C'est pas quelque chose qu'on est venu au monde avec, c'est quelque chose qu'on reçoit à un moment donné lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait pour nous. Je dois réaliser que Dieu m'aime, je le sais que Dieu est là, que Dieu m'aime. Je dois réaliser que je suis pécheur, je le sais que je suis pécheur. J'ai pas besoin de me le faire dire. Puis je suis sûr que chacun de vous non plus, vous n'avez pas besoin de vous le faire dire. Mais vous devez savoir que Jésus est venu puis a payé pour vos péchés. Là, il vous dit, viens à moi. Sois repentant. Tu ne pourras pas te sauver toi-même et changer ta vie toi-même. Dieu se propose de le faire à travers Jésus. Si tu veux le recevoir maintenant, je vais faire une prière pour t'aider à ce que tu puisses faire cette prière-là pour recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Dieu ne veut pas que tu attendes à demain et après-demain. Tu vas l'oublier son message. C'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Comme mon Seigneur, prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. C'est pas à nous que tu as fait cette prière-là, c'est à Dieu. Puis Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tous tes péchés. Parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu, il est pas menteur. Il t'a pardonné. Tu es maintenant un enfant de Dieu, puis tu peux maintenant, vu que tu l'es devenu, vivre ce contact-là avec le Seigneur. Il est là auprès de toi. Il veut te parler à chaque moment de ta journée. Prends le temps de développer ce contact-là. Marche à jour avec. Sois à l'écoute. Il va te parler, il va te montrer qu'il est là. Puis va dans une église où ce qui prêche la parole de Dieu, ça va t'aider à avancer dans la foi, à comprendre son chemin, puis on se retrouvera l'autre bord. Amen. Amen.